France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. C'est aujourd'hui que les députés sont appelés à se prononcer sur la suspension de la réforme des retraites. Point crucial, évidemment, des discussions sur le budget de la Sécu. Et avec notre invité, on parlera encore arbitrage budgétaire, plus exactement de leurs conséquences sur les personnes atteintes de maladies infectieuses. À suivre également la nouvelle stratégie spatiale de la France. On se rendra par ailleurs en Israël, où le président fustige les attaques menée par les colons en Cisjordanie. Enfin, on s'interrogera sur une mystérieuse voix qui s'est hissée cette semaine en tête des charts américains. C'est donc à 15h cet après-midi que les députés reprendront l'examen du projet de budget de la Sécurité sociale avec, pour commencer, un vote très attendu sur la suspension de la réforme des retraites. Cette mesure, vous le savez, a été concédée au PS par le gouvernement Le Cornu dans l'espoir de ne pas être censuré et d'obtenir ainsi un vote sur le budget 2026 avant la fin de l'année. Or, si les socialistes ne boudent pas leur plaisir d'avoir réussi à faire bouger Emmanuel Macron, jusque-là inflexible, les échanges s'annoncent houleux. À gauche, les insoumis sont vent debout contre ce qu'ils qualifient de trahison du PS pour des raisons diamétralement opposées. Une majorité du groupe Les Républicains devrait également s'opposer à cette suspension, de même que les députés Horizon d'Édouard Philippe. Les élus du RN voteront pour. Quant aux macronistes et aux modems, c'est souvent à contre-cœur qu'ils devraient seulement s'abstenir. Bref, on l'aura compris, le chemin sera de toute façon encore long pour parvenir à une adoption finale de cette suspension. Et puis surtout, Camille Manière, la question de son financement reste encore entière.
Ce décalage dans le temps de la réforme des retraites, l'État l'a chiffré à 100 millions d'euros pour 2026, 1,4 milliard pour 2027. Mais à ces estimations, il faut désormais ajouter environ 200 millions l'an prochain et 500 millions l'année suivante, après que le gouvernement a accepté lundi d'étendre le dispositif aux carrières longues et à d'autres régimes spécifiques. Pour faire face à ce surcoût, le gouvernement Le Cornu comptait pour l'an prochain augmenter la taxe exceptionnelle qu'il voulait imposer aux complémentaires santé des mutuelles. Mais dans le volet recettes du PLFSS voté samedi dans l'hémicycle, cette mesure a été tout bonnement rejetée par les députés d'opposition. Exit donc les 100 millions de recettes supplémentaires attendues. À la place, les socialistes ont fait voter une hausse de la CSG sur les revenus du capital, dont ils espèrent 2,8 milliards de recettes en plus pour la Sécu l'an prochain. Mais encore faudra-t-il que cette mesure survive à l'examen du PLFSS au Sénat à la fin du mois. En attendant, plus les débats avancent à l'Assemblée, plus les prévisions pour le budget de la Sécu s'assombrissent. Avec la copie révisée pour le moment par les députés, le déficit de la Sécurité sociale serait estimé l'an prochain à 20,5 milliards d'euros contre 17,5 milliards dans la version initiale présentée par le gouvernement. Le prix à payer pour Sébastien Lecornu s'il veut espérer terminer l'année avec un budget voté plutôt qu'une censure de son gouvernement.
Alors on a bien compris comment les tensions budgétaires étaient intimement liées aujourd'hui à l'instabilité politique. Reste que tous ces arbitrages financiers ont des conséquences humaines dès lors que derrière chaque ligne budgétaire se cachent des visages, c'est vrai pour les retraites, mais pas seulement.
Et c'est ce que vient de rappeler justement une campagne intitulée « Derrière les chiffres, des vies ».
Une campagne menée par un collectif d'associations engagées pour la santé mondiale, cette fois-ci qui vient pointer le désengagement des États en général, en même temps que cette logique comptable qui étouffe la solidarité. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, le vice-président de l'association AIDS, l'une des 8 structures à l'origine donc de cette campagne, Emmanuel Baudouanier, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Plus tard que ce matin, vous avez mené une action symbolique sous les fenêtres de Bercy pour alerter sur les conséquences humaines donc derrière ces coupes budgétaires, en même temps appeler l'État aussi à maintenir à minima son niveau d'engagement. À combien tout d'abord est-ce que l'on chiffre aujourd'hui la baisse du niveau de l'aide publique au développement en France?
Aujourd'hui, l'aide publique au développement, elle a été victime déjà en 2024 sur le budget 2025 et à nouveau cette fois-ci. Donc, on était au départ sur une diminution de 27% en 2024 pour 2025. Et là, c'est plus de la moitié. Mais le problème, c'est que sur cet mécanisme de financement, et contrairement à ce qui a été informé à vos auditeurs et auditrices, l'argent, il existe. Puisque la partie recette sur cette aide, elle peut aussi, au-delà de l'aide publique au développement, sur la taxe sur les transactions financières et sur la taxe solidaire sur les billets d'avion. Donc, la partie recette existe et aujourd'hui, il n'appartient qu'au gouvernement et notamment au président de la République de pouvoir axer et de flécher ces dépenses-là pour la solidarité internationale et notamment pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.
Depuis cette année, effectivement, un dispositif a pris fin, donc qui fléchait directement les recettes issues de certaines taxes vers l'aide publique au développement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consistait exactement ?
Ce dispositif était très simple, c'est que les personnes qui en fait polluent, celles qui contribuent aux crises économiques, aux crises financières, aux crises sur l'environnement, en fait ces personnes-là elles payent. Et donc c'était logique de ces taxes-là, et donc ces taxes-là devaient être réattribuées à la solidarité. Et sur ce qui est de la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose, depuis 2002 on avait un consensus entre l'ensemble des pays du monde. Le président de la République s'était engagé en 2019, lorsque la France avait accueilli la conférence de construction du Fonds mondial, à maintenir ces financements et à maintenir ce fléchage-là. Ce dont on se rend compte, c'est que le président de la République fait marche arrière et l'action de ce matin, elle avait pour symbolique d'être en bas des financiers, en bas de ceux qui tiennent les bourses de notre pays et de leur dire, regardez derrière ces lignes comptables que vous voyez, nous ce qu'on voit sur le terrain, ce sont les morts.
Pour bien comprendre, ça veut dire que ces taxes ont été détournées en somme pour être réintégrées donc au budget général de l'État, ce qui d'ailleurs est contraire à la promesse faite à Emmanuel Macron, vous l'avez dit, en 2019, mais aussi en 2024. Est-ce que cette rupture d'engagement de la part de l'État français est caractéristique d'une forme d'érosion du soutien à l'aide publique au développement à l'échelle mondiale ?
À l'échelle mondiale, c'était aussi une chance pour la France de montrer qu'on avait une arme diplomatique, un accompagnement et qu'on s'engageait, selon nos valeurs constitutionnelles, à plus de solidarité nationale mais aussi à l'international. Le fait que le président de la République en 2019, mais plus récemment en 2024, fasse marche arrière, c'est un mauvais signal. Et c'est un mauvais signal d'autant plus dans le contexte international dans lequel nous nous trouvons, où Donald Trump, en janvier 2025, avait déjà coupé l'USAID, PEPFAR. Et donc, le président de la République a une opportunité assez incroyable sur la scène internationale de montrer que la France ne lâchera rien. Et ça, nous, c'est ce qu'on souhaitait dire au président de la République et à Bercy ce matin, c'est leur dire, restons qui on est, restons dans notre ADN de la nation, de la nation française, continuons d'être solidaires. On a fait des dispositifs qui sont incroyables, taxer et faire payer les personnes qui le prennent. Cette taxe était plutôt acceptée. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement et le président de la République ont décidé de faire marche arrière ? Et ça, c'est presque à lui qu'il faudrait poser la question.
Mais alors justement, je vais quand même vous la poser aussi à vous. Comment est-ce que vous comprenez cet arbitrage budgétaire qui touche donc à la place même de la France, mais pas seulement, aussi à la cohérence de sa parole ?
Je pense que le premier point, c'est un point de méconnaissance. Tout simplement, c'est que ces taxes-là, quand elles existent et quand on les justifie plus, on oublie pourquoi est-ce qu'elles ont été. Peut-être en fait un petit oubli d'histoire. Et dans le contexte actuel, où évidemment on a bien conscience de la situation budgétaire de notre pays, on se dit que finalement les taxes existent, on ne veut pas en créer de nouvelles parce que les équilibres politiques à l'Assemblée nationale ne font pas consensus pour recréer de nouvelles taxes. Et donc finalement, on prend des taxes qui existent pour renflouer le budget. Et ça, c'est une rupture de la promesse du président de la République, c'est une rupture de la promesse de la France et c'est une rupture du contexte international puisque l'ensemble des présidents de la République qui se sont succédés depuis 2002 s'étaient plutôt engagés à ne pas y toucher. Et donc c'est une marche arrière, dans un premier temps probablement d'incompréhension, de méconnaissance des dispositifs, mais également, moi j'ai pas envie d'y voir une rupture parce que j'ai envie de croire en nos politiques publiques, en notre gouvernement, mais il n'est pas trop tard pour bien faire. C'est aussi le but du congrès qui va se réunir le 21, enfin Johannesburg déjà avec le G20, puis après avec la conférence de réduction du Fonds mondial. Donc il n'est pas trop tard pour bien faire. Ce sont des périodes de négociation, normalement, cette période-là. Et donc j'espère que le président de la République tiendra à cœur cette promesse de négocier avec les autres pays, mais aussi tiendra l'engagement de la France, qui est le deuxième contributeur.
Et on terminera par ces mots. Merci Emmanuel Baudouanier, donc vice-président de l'association AIDS, d'avoir répondu à notre invitation ce midi. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
On se souvient de lui en bras de chemise.
Oui, le regard toujours droit, une veste négligemment abandonnée sur un dossier de chaise. Et bien à l'instar du grand débat national imaginé pour sortir de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a choisi de se lancer à nouveau à partir d'aujourd'hui dans un tour de France pour, sinon sortir de la crise tout court, à tout le moins échanger. Il sera à Toulouse pour parler démocratie auprès d'un panel de lecteurs de la Dépêche du Midi, une visite à laquelle pourraient bien d'ailleurs s'inviter des agriculteurs occitans en colère. Et puis, cet après-midi, le chef de l'État ira inaugurer cette fois-ci le nouveau centre du commandement de l'espace, où il devrait dévoiler la stratégie nationale à l'horizon 2040 pour faire face à la compétition mondiale, tant civile que militaire. Les précisions d'Hakim Kasmi.
Au-delà de la dimension symbolique, ce nouveau bâtiment du commandement de l'espace ne se réduira pas à des simples bureaux, mais un véritable centre d'opération d'où seront coordonnées nos différentes opérations civiles et militaires dans l'espace. Il faut dire que les menaces contre nos infrastructures sont de plus en plus importantes, à l'image de la Russie qui tente d'espionner et de détruire nos satellites dans l'espace. Une menace russe qui se traduit aussi par la mise en orbite d'armes nucléaires, selon l'entourage d'Emmanuel Macron, comme nous l'explique Michel Friedling, qui a été le premier commandant de l'espace en 2019 et qui dirige aujourd'hui la société Lookup Space.
Les menaces contre nos satellites, ça n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. Et on a notamment des menaces depuis le sol vers l'espace, les plus spectaculaires étant des missiles anti-satellites. Donc il y a des essais qui ont été réalisés par des pays comme la Russie, la Chine ou l'Inde. Mais il y a des menaces aussi qui sont dans l'espace, donc qui peuvent prendre la forme de menaces non cinétiques. On parle de brouillage, d'interception, d'espionnage, ou cinétiques, puisque... On a la conviction aujourd'hui que les Russes ont développé des satellites qui peuvent lancer des projectiles sur d'autres satellites après des phases de rapprochement.
En attendant, pour faire face aux différentes menaces, la France va mettre en orbite dans 2 ans de nouvelles capacités de surveillance, comme les satellites patrouilleurs guetteurs. Enfin, c'est dans ce contexte que le président de la République rappellera aussi la stratégie spatiale de la France, ainsi que celle de ses camarades européens d'ici 2040, alors que se tient à la fin du mois la conférence ministérielle annuelle de l'Agence spatiale européenne, où se discutent et se négocient les différentes dotations des pays de l'Union européenne.
Les projets d'annexion partielle ou totale de la Cisjordanie par Israël constituent une ligne rouge à laquelle nous réagirons fortement s'ils sont mis en œuvre, déclaration hier d'Emmanuel Macron au président palestinien Mahmoud Abbas. Il faut dire que la violence des colons et militants de l'État hébreu atteint aujourd'hui de nouveaux records dans le territoire occupé, violence perpétrée contre des villageois palestiniens bien sûr, mais aussi envers les journalistes, au point que Ferrare, la police et l'armée ont dû être mobilisés pour stopper ce déchaînement de haine. Le président lui-même, Isaac Herzog, a également condamné ces attaques. Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Jérusalem, ce qui, en l'occurrence, choque le chef de l'État hébreu, Thibault, c'est le fait que ces colons s'en prennent à d'autres Israéliens.
Tous les voyants sont au rouge. Jamais depuis 20 ans, les colons israéliens extrémistes n'ont autant agressé d'agriculteurs palestiniens. L'ONU enregistre 8 attaques par jour depuis le début de la saison de récolte des olives mi-octobre. L'armée israélienne en dénombre 3 fois moins, mais constate une augmentation de 30% des violences par rapport à l'année dernière. Et pourtant, il a fallu attendre l'agression hier de soldats israéliens par des colons pour qu'Isaac Herzog réagisse. Hagit Ofran est une militante israélienne opposée depuis des années à la colonisation.
Quand les colons attaquent l'armée, vous pouvez constater qu'il y a plus de réactions des hommes politiques israéliens. La plupart de ces colons violents n'en ont rien à faire de savoir si vous êtes palestinien, soldat ou israélien. Si vous n'êtes pas avec eux, ils vont vous blesser. Beaucoup d'entre eux sont des enfants avec des problèmes. Au lieu de prendre soin d'eux, le gouvernement les envoie sur les collines.
The government is sending them to the hills. Le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël accusé donc d'instrumentaliser ces jeunes colons désœuvrés pour continuer sa politique d'annexion de facto de la Cisjordanie occupée. L'armée israélienne parle de violence d'anarchistes contre lesquels il faut agir fermement.
Merci Thibault Lefèvre à Jérusalem. 12 morts et 27 blessés, c'est le dernier bilan de l'attentat suicide perpétré hier devant un tribunal d'Islamabad revendiqué par une faction des talibans soutenue par Kaboul. De quoi laisser craindre une reprise des hostilités entre les deux voisins, le Pakistan et l'Afghanistan, qui le mois dernier avaient déjà connu une semaine d'affrontements d'une rare intensité. Puis le Cambodge et la Thaïlande se sont accusés de nouveaux affrontements le long de leurs frontières. Ce matin, 5 personnes auraient été blessées. Lundi dernier, Bangkok avait annoncé c'est suspendre la mise en œuvre d'un accord de paix co-signé fin octobre par le président américain Donald Trump.
De manière assez inattendue, hier, les Irakiens se sont davantage déplacés que les années précédentes pour aller voter.
Oui, malgré les appels au boycott et un sentiment général de relative apathie et de scepticisme, le taux de participation a dépassé les 55%, soit 14 points de plus qu'en 2021. Pas sûr en revanche que cet élan démocratique vu comme un possible espoir de changement ne provoque de bouleversement majeur. La liste du Premier ministre sortant traditionnellement issue de la majorité chiite, a remporté une large victoire. Le scrutin doit également ouvrir la voie à la désignation d'un nouveau président, un poste largement honorifique réservé à un Kurde, de même qu'un sunnite au poste de président du Parlement. Enfin, nul doute que ces résultats seront scrutés de près par les deux plus proches alliés de l'Irak que le régime cherche à conserver dans un fragile équilibre et que sont l'Iran d'un côté et les États-Unis de l'autre.
Aux États-Unis, justement, après le Sénat, c'est au tour de la Chambre des représentants de voter aujourd'hui pour mettre fin au shutdown.
Oui, un vote a priori garanti par la majorité étroite dont disposent les élus républicains, de sorte qu'il n'en restera plus après que la signature présidentielle pour lever la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire du pays. Sauf que si le cauchemar touche à sa fin, la situation n'est pas tout à fait prête de s'améliorer dans les aéroports. Voilà plus de 40 jours que les contrôleurs aériens ne sont plus payés et certains ont décidé par protestation de ne plus prendre leur poste, provoquant toujours retard et annulation. Illustration à l'aéroport d'Atlanta, l'un des plus fréquentés des États-Unis. C'est un reportage signé Timur Özturk.
Julie cherche du regard sa valise sur le tapis roulant. Elle rentre de Washington, soulagée après un voyage mouvementé à l'aller.
Mon vol a été annulé samedi soir, reporté à dimanche matin. Et dimanche, le vol a eu un retard d'une heure en allant à Washington. Donc j'étais agréablement surprise qu'aujourd'hui il soit à l'heure.
Mais si elle a eu de la chance au retour, le tableau d'affichage indique encore plus d'une centaine de vols annulés sur la journée. Derek vient d'atterrir à Atlanta. Il prévoit de rentrer après-demain en Virginie et espère un retour à la normale.
La sécurité est le problème le plus grave à mes yeux, avec des contrôleurs aériens qui ne sont pas payés. C'est inquiétant de se dire qu'il y a peut-être un problème. Je suis content que le shutdown semble bientôt être réglé, que les fonctionnaires puissent nourrir leurs familles et que les passagers puissent voyager en toute sécurité.
Sean Duffy, le secrétaire américain au transport, a confirmé hier qu'une prime de 10 000 dollars serait versée aux contrôleurs aériens qui n'ont pas manqué un seul jour de travail pendant le shutdown. Promesse de Donald Trump qui a également menacé de retenue de salaire ceux qui ne reprennent pas immédiatement leur poste.
Voilà un reportage à Atlanta signé Timur Özturk.
Et pour finir, on reste aux États-Unis avec une mystérieuse voix.
Oui, celle d'un chanteur soupçonné d'être virtuel, comprenez, généré par intelligence artificielle et qui s'est hissé au sommet de l'un des classements des morceaux les plus populaires aux États-Unis. Une première selon les données publiées lundi par le magazine spécialisé Billboard. Walk My Walk, que l'on pourrait traduire par Suivez mes traces, peut-être un message subliminal de l'artiste sans identité connue. Donc aujourd'hui, Breaking Rust, éliminer la rue, autre indice possible, est devenu tout simplement le morceau de country le plus téléchargé. Pierre Repère, bonjour.
Bonjour.
Pour l'heure, Breaking Rust, ou ses créateurs, du moins, ne revendiquent pas avoir utilisé l'IA. En revanche, si son origine virtuelle était confirmée, eh bien, il s'agirait là d'un nouveau tournant dans l'émergence de cette technologie dans le monde de la musique. You can kick rocks if you don't
like how I talk. I'm gonna keep. Si vous écoutez ce morceau, à quel point l'IA a-t-elle été, selon vous, utilisée dans sa création? Pour Sofiane Fanen, journaliste musique au Média Les Jours, pas de doute, Walk My Walk est bien généré par IA. La seule question est de savoir à quel point ce morceau est hybride.
Le son signe l'IA, c'est-à-dire on a vraiment une voix qui est archétypale, une musique qui est absolument lambda, totalement passe-partout. Et en fait, c'est une musique qui est parfaite statistiquement. Et quelque part, c'est pour ça qu'elle fonctionne, soit parce que des auditeurs y trouvent un plaisir musical, soit parce qu'elle s'infiltre parfaitement dans toute l'écoute distante, passive. On peut être en train de faire autre chose, on peut être dans un café, on peut être dans un bar.
Et cette incursion de l'IA dans la musique est de plus en plus difficile à détecter. Selon une étude commandée par Deezer, 97% des gens n'arrivent plus à faire la différence entre une musique entièrement générée de façon artificielle et une musique créée par un artiste. Sofiane Fanen.
Il y a eu depuis un an une progression technologique incroyable des applications. Et aujourd'hui, en termes de rendu vraiment sonore, on ne peut pas différencier une guitare, un violon, voire une voix humaine d'une voix IA. C'est de l'imitation parfaite aujourd'hui. Par contre, là où l'imitation a ses limites, c'est dans la créativité, l'humanité et la différence. Si on cherche à être touché par la musique et à avoir des chansons qui seront importantes pour nous dans notre vie, là, l'IA, pour l'instant, elle n'est pas du tout là pour ça.
Et pourtant, les morceaux faits par IA sont de plus en plus présents dans les charts. Il faut dire aussi que ces derniers submergent les services de streaming. Selon Deezer, en moins d'un an, le nombre de titres générés par IA publiés sur sa plateforme a triplé. Aujourd'hui, 34% des nouveautés publiées chaque jour, soit 40 000 titres tout de même, sont désormais entièrement créés par l'intelligence artificielle.
Merci Pierre Roper. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec partout de belles éclaircies à l'exception de la pointe bretonne et du nord du Cotentin. Quant aux températures particulièrement douces pour la saison, elles seront comprises entre 16 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.